Alléluia. Soyez les bienvenus. Vous rappelez-vous du texte de référence qui est, normalement, c'est le titre que l'on répète depuis presque 2 mois maintenant, qui commence par ces 3 premiers mots. Si mon peuple. Alors, on va essayer de dire le verset entier de mémoire. De Chroniques chapitre 7, pour ceux qui voudraient se rappeler. Mais on essaie de dire à haute voix tous ensemble la suite du verset, tranquillement, au rythme du pas. Alors, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face,
se détourne
de ses mauvaises voies,
je
l'exaucerai des cieux et je guérirai le pays. Et un peu plus loin, il dit, là sera mon cœur et là sera mes yeux. Ces 4 principes sont fondamentaux, mes bien-aimés. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de mauvaise voie, Dieu a une promesse qu'il tiendra, je l'exaucerai des cieux. Et là sera mon cœur, là sera mes yeux. On a voyagé dans toute cette thématique, car on sait que c'est le chemin essentiel pour que nous puissions retrouver cette vigueur spirituelle, ce renouvellement spirituel. Et le thème que l'on va aborder ce matin, alors je vous ai déjà prévenu la semaine dernière que ce serait un temps participatif, un temps de réflexion collectif, sur le thème « Comment vivre la prière ?». Alors le but ce matin, c'est vraiment, là j'ai mis une dizaine de points. Mais le but ce matin, c'est que nous puissions vraiment avoir cette liberté d'exprimer une anecdote, une expérience. Peut-être que dans les commentaires des uns des autres, il y aura quelqu'un qui dira « Oui, mais on pourrait aussi dire ça. » Et il faut qu'il y ait cette liberté d'expression. Le but, c'est que ce soit quand même court, qu'on ne mobilise pas tout le temps sur une anecdote ou un exemple ou une référence biblique qu'il aurait à cœur, mais ce sera très, très constructif. Que ce soit aussi l'occasion, et alors c'est peut-être plus difficile, mais si dans l'échange, quelqu'un a une question, quelqu'un a une interrogation, qui dit « Oui, mais moi, j'y arrive pas. Comment on peut faire ?» N'hésitez pas. Le but, c'est pas qu'on passe du temps à parler d'une chose, et surtout de la prière, mais c'est que nous puissions avancer dans la vie de prière. Il y a quelque chose qui pèse sur le cœur de beaucoup de pasteurs, et je pense de plusieurs chrétiens. Il semblerait que le peuple de Dieu ne sait plus prier. Je ne cherche ni à juger, ni à condamner, ni à évaluer, ni à noter. Mais il y a quand même un constat que on s'aperçoit que bon nombre de ceux qui invoquent le nom de Dieu ne savent plus ce qu'est prier. On arrive même tantôt à des situations où les gens disent mais je pense à lui. Mais penser à quelqu'un et parler avec quelqu'un, c'est 2 choses différentes. Si je dis à ma grand-mère, tu sais, j'ai pensé à toi tous les jours, ça lui fera, pardonnez-moi l'expression, une belle jambe si je l'appelle jamais. Et avec Dieu, c'est pareil. On arrive de temps en temps à des situations comme ça où ceux qui se disent être chrétiens ont l'impression qu'ils sont chrétiens parce qu'ils pensent à Dieu. Oui, Dieu existe. Oui, je suis d'accord avec la Bible. Bon, il y a même des fois, je vais à l'église. Vous voyez comme je suis un bon chrétien. Et quand on dit, mais est-ce que tu pries ? Tu sais, chaque matin, je pense à Dieu. Mais c'est pas suffisant. La prière n'est pas une pensée. Ce n'est pas non plus un travail de vie d'intérieur pour être zen. La prière, c'est un rapport de communication, de relation.
Amen. Amen.
Et c'est en ce sens que on s'aperçoit qu'il y a dans ce domaine, je ne sais pas si le mot est adéquat, mais une grande faille, un manque. Et pourtant, tout est fondé là-dessus. S'humilie, prie, cherche ma face, c'est lié. Et se détourne de ses mauvaises voies. Alors ce matin, le but, ce n'est pas vraiment de dire, je crois que vous dire il faut prier, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais chacun dans sa vie personnelle peut être comme une sorte, comme devant un mur, se dire j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Et le but de ce matin, c'est de nous donner des pistes pratiques, concrètes. Non pas se dire il faut prier, alors je vais prier. Vous savez, j'avais un ami à moi, il était tennisman. Mais pas comme moi, quoi, un vrai, quoi. Il faisait des compétitions, etc. Et quand je lui demandais alors comment ça se passe, tes entraînements, eh ben, j'étais surpris parce que je m'apercevais que dans ses entraînements, il ne faisait pas que du tennis. Il faisait tendance du foot. Parce que ça l'apprenait à l'esprit d'équipe. Il faisait de la musculation pour développer les autres muscles. Il faisait de l'endurance. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le tennis, on dirait. Mais si, tout ça, ça fait partie de son entraînement de tennisman. Et en tant que dans la prière, c'est pour ça que je n'ai pas dit comment prier, mais comment vivre la prière. Parce que la prière, ce n'est pas que prier. Ce n'est pas que fermer les yeux et puis on rentre dans une sorte de on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Mais prier, c'est une vie, c'est une relation. Et le but de ce matin, c'est vraiment de se fixer. Moi, j'en ai placé une dizaine. Il y en aura peut-être d'autres qui vont émerger du milieu de nous. Mais une dizaine de points de réflexion. Non pas dans un but de dire, tiens, je vais être un bon priant, mais de se trouver des moyens pour développer notre vie de prière. Il n'y a pas une seule manière de prier. Il y en a combien? Il faut que je commence à délier vos langues. Hein. C'est pour ça, c'est une sale question. Juste, il sort. Qu'est-ce qu'on peut dire avec une question comme ça? Il y a combien de manières de prier, mes bien-aimés?
Autant qu'on veut.
Il y en a une multitude. Il n'y a pas une manière de prier. Et ça, déjà, dans notre cœur, ça doit être quelque chose qui doit nous déculpabiliser, nous dégager. Il n'y a pas de méthode, c'est ça. Il y a une manière d'aimer. Mais il y a une multitude de manières d'aimer. Par les gestes, par les paroles, par les attitudes, par les attentions, même par un silence. Et la prière, c'est pareil. Alors on nous dit, la prière, il faut être forcément prosterné. Oui, on voit que Élie, la semaine dernière, il était lui, carrément la tête dans les genoux. Et c'est pas parce qu'on est assis que l'onction ne va pas être là. La Pentecôte, il y en a beaucoup qui ont vécu le temps de la Pentecôte comme ça. Ils étaient assis, normal. D'autres vont prier debout, qu'importe. D'autres en marchant. Ce qui est important quand on pense à la prière, c'est que c'est une vie, une relation. Quelque chose de dynamisant, quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose qui enrichit. Alors, comment vivre la prière? Moi, j'ai mis quotidiennement. Pourquoi quotidiennement? Parce qu'il faut parler quotidiennement à quelqu'un. Est-ce que c'est important de prier longuement?
Non.
Pourquoi non?
Ce n'est pas une histoire de longueur.
D'accord, mais est-ce qu'on peut compléter la pensée?
La qualité de la prière.
On va rester sur la notion de la longueur. On dit que la prière, ce n'est pas une question de longueur. De la personne.
Ouais.
C'est-à-dire.
Il y en a qui aiment prier longtemps, ils ont beaucoup de choses à dire.
Ouais.
Et il y en a, ils n'ont pas grand-chose à dire. Mais
ça peut aussi être deux jours, parce que si on est dans une attente aussi.
Ça peut être comment, tu dis?
Ça peut être un jour, deux jours, si on est dans une attente.
Un jour, deux jours de prière? 24 heures, 48 heures de prière?
Moi, je ne l'ai pas fait.
Est-ce que j'ai dans ton cœur?
Non, mais ça fait pas longtemps. Il n'y a pas de temps.
C'est ce qui sort du cœur.
C'est ce qui sort du cœur. Donc là, on revient à cette notion de qualité. Une prière qui plaît à Dieu. Là, on en revient à la notion du cœur. Juste pour la notion du temps. Je suis mille fois d'accord que la prière n'est pas une question de temps, une question de chronomètre. Je suis d'accord avec ça. Mais le temps est révélateur de notre vie de prière. Je suis mille fois d'accord qu'une relation avec quelqu'un ne va pas forcément dépendre, la communication que je vais avoir, une conversation que je vais avoir avec une personne, ne va pas dépendre du nombre de temps que je vais discuter avec elle. Malgré tout, si je ne prends pas le temps de discuter avec cette personne, je ne la connaîtrai jamais réellement. Plus on parle avec quelqu'un, plus on a de choses à se dire, n'est-ce pas? Et moi, on parle avec quelqu'un, même si c'était un super ami d'enfance avec lequel on a partagé plein de choses. Du temps se place entre nous. Quand on se revoit, Il faut retrouver une communication. Et dans la prière, c'est pareil. Personnellement, j'ai remarqué. Après, c'est pour ça que je veux que ce soit interactif. Mais j'ai remarqué que moins je prie et moins j'ai envie de prier. Et plus je prie, et plus c'est facile de rentrer dans la prière et plus j'y demeure. Donc je suis d'accord pour dire que la prière n'est pas une question de temps. Mais il faut quand même qu'on se fixe des objectifs. Est-ce que quelqu'un a des objectifs par rapport au temps dans la prière? Quand vous faites quand vous voulez prier, est-ce que vous faites comment? Vous ne fixez pas de temps?
Si c'est un moment dans la journée, enfin, par rapport à... On sait qu'on ne dure pas, on s'occupe d'autre chose.
Ouais.
On fixe plutôt un moment où on sait qu'on va être tranquille. Enfin, voilà, c'est comme ça.
T'as pas forcément un moment fixe dans le planning de la journée, mais tu sais qu'à un moment dans la journée, tu vas prendre du temps.
Je sais que ce sera plus facile.
Et ce temps-là, tu prends combien de temps?
Ça dépend.
Ça dépend. Non,
c'est
ok. Ensuite, personne ne se fixe d'objectif temps dans la prière.
L'enfant dort, je sais que personne ne va me déranger. Donc voilà, je dis pas, je fais 15 minutes, 30 minutes, je me laisse aller.
Alors là, il y a un point qui est important, c'est que Félicia dit, je commence à prier, une fois que je sais que tout est tranquille.
Ouais, mais n'empêche pas que dans la journée, je peux prier aussi.
Voilà, de manière très ponctuelle. Est-ce que des gens prient le matin, par exemple, ici?
Oui.
Bon. Quand vous priez le matin, après, vous n'avez pas des choses à faire?
Si, on peut continuer, ça dépend ce qu'on fait, mais il y a des choses, on peut continuer. Balayer, par exemple, ça n'empêche pas de prier.
Balayer, ça n'empêche pas de prier. Malgré tout, on n'est quand même pas dans la même disposition.
Voilà, ça demande pas de grosses réflexions.
On peut prier en balayant.
C'est différent.
Très bien. Donc là, on aborde une autre question. Là, on décale sur la notion du temps. On est en train de parler après de la notion de prier par l'esprit. Et on verra ça tout à l'heure, qui est très important aussi. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez organiser les temps, mais malgré tout, on s'aperçoit qu'effectivement, il est important que la prière soit, dans l'esprit de chacun, un rendez-vous particulier. Et quotidien, pardonnez-moi, c'est ça. Un rendez-vous quotidien. Il n'y a pas une manière de prière où sens on pourrait dire c'est forcément le matin ou le midi ou le soir ou quoi que ce soit. On a vu, dans les différentes expressions, que chacun le plaçait par rapport à son rythme, par rapport à sa vie. Et même, on peut même dire que dans une même vie, on a plusieurs vies. Quand on est célibataire, quand on est marié, quand on a un travail, quand on n'a pas de travail, quand on a peut-être des contraintes d'ordre alimentaire ou médical, la vie va changer, nos rythmes vont changer. Mais il faut toujours que dans la journée, on prenne du temps à part pour prier. Après, chacun le voit comme il veut. Personnellement, je sais que quand je me mets à prier, je regarde ma montre. Je me connais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là-dedans, j'ai tellement de choses à penser que si je ne m'arrête pas volontairement, on dit ça y est, je prends une demi-heure là, je me bloque, je veux pas penser à autre chose, je prie pendant une demi-heure, je lâche pas le bout. Je sais qu'au bout de 5 minutes, ah oui, il faut que je passe un coup de fil, ah oui, il faut que je passe un mail, ah oui, au fait, la prédication, il faut peut-être que je pense à ça. Alors, chacun doit trouver son temps, son rythme, sa manière de faire. Mais ne négligeons pas la notion du temps. Ne négligeons pas la notion du temps. Je ne connais pas un seul sportif qui va partir à l'entraînement et au bout de 5 minutes, oh bah c'est bon, j'ai une petite goutte de transpiration, c'est bon. La notion du temps dans tout, elle est importante. Donc moi je vous encourage à prendre du temps pour prier, à gérer votre temps pour prier. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, oui mais moi je sais pas prier, je sais pas prier une demi-heure, je sais pas prier 10 minutes, je sais même pas prier 5 minutes, je sais pas, Il y a des gens, ils ont du mal à se discipliner. Et c'est vrai que l'exercice de la prière, c'est une lutte.
Amen.
Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Et s'il y a bien quelque chose que la chair n'aime pas, c'est se poser pour prier. On sera toujours stimulé, agité pour être chaud. C'est pour ça que derrière le conseil que je vous donne, qui est celui de vous brider du temps, ce n'est pas seulement un exercice pour un exercice. Évidemment, avec le temps, le temps qu'on s'est mis, on n'est plus à 2 minutes près, on passe plus de temps. Okay. Mais il faut qu'on habitue notre chair à être brimée. C'est dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, il ne faudrait pas non plus rentrer dans une sorte de culpabilité à se dire « Ah oui, mais moi, je ne sais pas prier une heure. C'est long, une heure de prière pour moi. » Il y a un livre, oui, qui est là. C'est un livre qui s'appelle « Si tu veux aller loin ». Il donne un exemple de couples qui ont dit, voilà, dans leur vie spirituelle, dans leur relation avec Dieu, dans la vie de prière, avec tout ça, ils veulent offrir à Dieu le 10e de leur temps. Et je trouve ce repère très bon. On donne en référence la 10e de nos biens matériels pour l'Église, mais on peut aussi donner la 10e de notre temps au Seigneur. 10% de 24 heures, ça fait quoi ?
2h30.
Alors ça peut paraître énorme, oh, mais je ne peux pas passer 2h30 dans la prière avec tout ce que j'ai à faire. On peut peut-être ne pas passer 2h30, mais on peut peut-être consacrer une petite heure le matin, une petite heure le soir. Déjà, ça va mieux. Puis, c'est un exemple que je dis. Là encore, on ne dit pas qu'il y a une manière de faire. Et on peut aussi diviser le temps. Si on ne sait pas prier une heure non-stop, on peut peut-être prier 4 fois un quart d'heure. C'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir cette mentalité, cette vie de prière. Et je sais qu'il y a des gens où de temps en temps, c'est dans l'organisation d'une journée, on n'a peut-être pas forcément beaucoup de temps là à disposer à la prière ou à la méditation de la parole de Dieu. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est dire, Seigneur, là tu vois, j'ai une demi-heure, je vais te prendre 10 minutes pour prier avec toi. Et hop, et après on reprend nos activités. Et il vaut mieux dans une journée prier 4 fois un quart d'heure que de se décourager au bout de 5 minutes et dire, oh, mais je peux pas prier une heure, j'en peux plus, et on arrête et on fait plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est important que dans cette vie de prière, il y ait cette souplesse. Mais cette souplesse, ça ne veut pas dire de la négligence. De la souplesse, ça veut dire trouver un système qui est adapté à chacun pour apprendre et prendre le temps dans la prière. On peut prier à tout moment. Hein.
Le Saint-Esprit aussi peut nous intercéder pour prier.
Tu ôtes les paroles de ma bouche. Merci beaucoup. Et c'est ça le but de l'échange. C'est que le Saint-Esprit vous interpelle. Si vous avez une vie de prière, si pour vous prier, c'est bon, allez, je ferme les yeux, je dis ce que j'ai à dire à Dieu. Effectivement, dans ce sens-là, il y a les bavards et les pas bavards. Mais ça n'a rien de spirituel. Pardonnez-moi. Les hommes religieux, ils sont capables de faire mieux que nous dans ce cas-là. On n'est pas dans une notion de « j'ai des choses à dire » ou « j'ai pas de choses à dire ». On est dans une notion de « Seigneur, je veux être en relation avec toi ». Et plus on a une relation avec quelqu'un, plus on aime passer du temps à écouter, à recevoir, à échanger, à partager, à être peut-être tout simplement, et on va développer tout ça après, mais effectivement, dans cette vie spirituelle, vous serez peut-être en train de faire une occupation et là vous sentirez qu'il y a le Saint-Esprit qui vous invite à mettre du temps à part pour prier. Alors là, dans ces moments-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. 5 minutes, 1 heure. En tout cas, ce qui est bien dans ces moments-là, c'est que nous, on commence déjà à s'inquiéter. Oui, mais j'ai encore des choses à faire, Seigneur. Et lui, il n'est pas au courant? Il est au courant. Alors faisons-lui confiance. Parce que souvent, dans ces moments-là, on dit, mais Seigneur, non, j'ai des choses à faire. Si on est obéissant, on s'aperçoit que les choses se débloquent sans que nous ayons fait quoi que ce soit. Et c'est ça la vie de prière. À la notion de prier par l'esprit. Paul disait qu'il priait en langue plus que tous les chrétiens. Quel prétentieux ce gars-là. Mais j'espère qu'on puisse tous se dire la même chose. Oh frère, si tu savais. Mais quand il dit je parle en langue plus que vous tous, vous croyez qu'il priait 5 minutes alors en langue? C'est là que je vous dis que la notion du temps n'est pas à négliger. Bien sûr, nous ne sommes pas des compétiteurs dans le temps de prière. Mais quiconque néglige la notion du temps ne saura pas prier et ne vivra pas une vie de prière. C'est indéniable. Et Paul, alors, effectivement, il y a ce temps de prière où on se concentre avec le Seigneur. Et puis, il y a effectivement le fait de prier par l'Esprit. Quelques exemples que vous auriez à partager sur la prière par l'Esprit ? Des références, des idées, des anecdotes?
Oui,
ça peut être parfois en écoutant la radio, il peut y avoir des événements qui nous amènent à prier, l'incitation, ou sur la route, on voit un accident, des choses comme ça. On peut prier.
Vous avez entendu ?
Oui.
Elle entend une information, et ça la pousse à prier. Effectivement, le fait d'entendre des nouvelles doit nous porter à prier. Il y a des gens qui disent, mais moi je ne sais pas quoi dire à Dieu. Ah bon ? Mais sois sensible. Sois sensible aux besoins. Sois sensible aux actualités. Sois sensible à l'œuvre. Le fait d'apprendre des choses, des nouvelles, nous pousse à la prière. Et effectivement, il y arrive qu'une nouvelle va plus nous interpeller qu'une autre. Et alors on va prier. Très bien. D'autres illustrations ? Alors il y a des fois, on peut arrêter ce qu'on est en train de faire. Ça vous est déjà arrivé d'être saisi par l'esprit en voiture ?
Oui.
Aïe ! Non, faut pas. Alléluia ! Non, faut pas faire ça. Hein. Faut pas fermer les yeux dans ces moments. Oh Seigneur, c'est tellement bon. Ah ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Faut parler en langue. Faut laisser le cœur s'élever. Faut laisser l'esprit de Dieu travailler notre être intérieur. Mais il y a des versets qui sont magnifiques. Il y a un verset qui dit que Dieu connaît le langage des larmes.
Amen. Amen.
Il y a des situations où on peut être à l'école. On peut être en supermarché. Est-ce que vous avez commencé à parler en langue en supermarché, mes bien-aimés ?
Oui.
Oui ? Aïe, aïe, aïe. Je vais avoir des problèmes. Alors, ça, on peut peut-être le faire en murmure.
Oui, en murmure.
Mais on comprend que... Il y a une liberté qu'on ne peut pas forcément avoir au bureau, quoi. Oh Seigneur, je te bénis, je te loue, tu touches mon cœur, Seigneur, merci. Il est folle, il est fou celui-là. Il y a des situations où on ne peut pas s'exprimer aussi librement. La prière, c'est aussi dans le silence.
Oui.
C'est laisser l'Esprit de Dieu nous travailler, parler dans notre cœur, laisser les choses se mûrir, se développer. Ça, c'est la vie de prière aussi. C'est pas forcément parce qu'on va se faire entendre ou on va s'entendre qu'on prie ou qu'on prie pas. Mais c'est très important, effectivement, de laisser d'entendre des moments comme ça où le Seigneur dépose des choses sur notre cœur. Quand on peut s'arrêter, alléluia. Mais quand on peut pas s'arrêter, Dieu le sait, n'est-ce pas ?
Il sait tout.
Alors qu'on va pas commencer, ah bah tu vois, Seigneur, je suis au volant, alors tu reviendras tout à l'heure quand je serai disposé. Si on a cette vie de prière, qu'on le laisse nous parler dans des circonstances peut-être en temps complètement étonnantes, laissons ces moments nous remplir et parlons au Seigneur, développons cette sensibilité. C'est indispensable. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la prière par l'Esprit ?
Par l'esprit, je sais pas, mais moi je sais que des fois quand j'organise ma journée, si elle n'est pas prévue comme je voulais, j'ai pas eu mon temps de prière,
ouais.
Et ben, je m'aperçois qu'il manque quelque chose.
Ouais, alors ça voilà, ça c'est la notion du temps. Mais ça, c'est des choses qu'on découvre. Quand on n'a pas de vie de prière, on s'aperçoit qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert la vie de prière. Mais quand on sait mettre du temps à part dans la prière, on s'aperçoit que ça influence tellement la journée que ceux qui ratent pour une raison ou une autre, parce que voilà, on sent qu'il y a un grand vide et que les choses ne sont plus pareilles, ni dans notre mentalité, ni dans notre caractère, etc. Donc c'est pour ça que vraiment, je ne veux pas faire de vous des croyants chronomètres, des prieurs avec une montre à la main et dire ah, « Tiens, j'ai prié un quart d'heure, je suis un bon chrétien. » Non, ce n'est pas dans cette logique-là. Mais quiconque néglige la notion du temps dans la prière, il passe à côté de quelque chose. Il passe à côté de quelque chose. C'est... Et je crois que c'est la raison pour laquelle les chrétiens du 21e siècle en Europe, là, on ne sait plus ce que c'est que prier. On ne sait plus ce que c'est. Et je le dis à ma propre honte. Quand j'entends, quand on voit les images de ces enfants en Inde qui sont capables de passer 2 heures, 3 heures dans la prière, je vous le dis honnêtement, moi je ne suis pas capable de passer 3 heures dans la prière. Vous pouvez me lapider, vous pouvez me dire que je suis un mauvais pasteur, j'accepte, c'est vrai. Mais je reconnais aussi que c'est forcément une faiblesse dans ma vie. Alors entre se dire, bah, c'est pas grave, on fait comme ça, ou se dire, Seigneur, je veux aller plus loin. Et si dans notre esprit, on ne comprend pas que la notion du temps, c'est quelque chose d'important, alors on se donnera toujours mille et une excuses. Parce qu'on est dans une société qui nous sollicite tellement. On est toujours pris. On a tout pour que tout aille bien. On a des voitures super rapides, on a des machines qui font tout à notre place, on a des ordinateurs qui tapent plus vite que notre ombre. Et pourtant, on n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est l'esprit de ce monde qui cherche à nous croire, à nous faire croire qu'on n'a jamais le temps de rien. Mais on verra tout à l'heure une autre explication à ça. Ok. quotidiennement, par l'esprit. Il y a le mot Bible. Quel rapport entre la prière et la Bible ?
Prier la parole.
Prier la parole. Prier selon la parole. Ça, c'est des points de repère extraordinaires. Dire Seigneur, c'est écrit. S'appuyer sur des versets de la Bible pour avoir de l'autorité, pour avoir des convictions, pour savoir, non, si c'est écrit, Seigneur, on a le droit de revendiquer, de vivre ce que le Seigneur nous a dit qu'on pouvait vivre.
Amen.
Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as promis des fleuves d'eau vive à ceux qui croiraient en toi. Seigneur, je veux ces fleuves d'eau vive. Et il faut s'appuyer sur la parole de Dieu, très important. Quoi encore sur la parole ?
Les exemples.
Des exemples, voilà, des personnages bibliques qui vont nous porter, nous stimuler, nous parler.
Oui. Mm-hmm.
Parler.
Elle nous fortifie.
Elle est puissante, elle nous encourage. Vous savez, quand vous. On parle vraiment de la vie de prière. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances, par exemple, vous dire tiens, je sais qu'il faut que je prie. Et puis, vous avez pu vous apercevoir que c'est difficile de rentrer dans la prière. Pourtant, vous avez dit, ah, Seigneur, je prends ce temps pour te prier, et puis on n'y arrive pas.
C'est un combat.
Prenez le temps. Au lieu de dire, maintenant je prie maintenant, prenez le temps de lire la Bible. Et vous allez vous apercevoir que vous rentrerez après dans la prière.
Bon,
évidemment, la prière ne remplace pas. La Bible ne remplace pas le temps de prière. Mais la Bible nourrit le temps de prière. Et inversement, la prière va vous permettre de mieux rentrer aussi. Dans la Bible. Vous savez, il y a quatre points cardinaux dans la vie chrétienne. C'est la foi, l'amour pour les autres et cet équilibre entre la parole de Dieu et la prière. Si vous avez compris que dans votre vie, il y a ces quatre priorités-là, la foi, l'amour, la parole et la prière, alors vous serez des hommes et des femmes affermis en toutes circonstances. Et les quatre se nourrissent les uns des autres. Nous n'étiez pas dit en Romains 10 que la foi se nourrit de la parole de Dieu. Et on sait que c'est vraiment la foi qui nous stimule à prier. Et la prière sera aussi stimulée par l'amour. Et tout est lié. Tout est lié. La foi, l'amour, la parole et la prière. Donc la prière, la parole doit vraiment faire partie de cette vie de prière. Quiconque néglige de lire la parole de Dieu, il va s'apercevoir que dans sa propre vie de prière, il va se sentir faible, impuissant. Il voudra prier, mais il se sentira comme... Vous savez, comme les ballons... pas entièrement dégonflé, mais un peu raploplo, quoi, vous voyez ? On a des beaux ballons, on sent que le plastique, il est bien tendu, ils sont beaux, on a envie de taper dedans. Et puis, une fois que ça se dégonfle, il y a un tout petit trou, ça devient une sorte de... un truc un peu flasque. Et ben. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible se retrouvera dans sa vie de prière dans cet état-là. Il n'y aura pas d'affermissement, il n'y aura pas de consistance, il n'y aura pas de forme, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de rebond. D'autres exemples sur la Bible ? Des commentaires, des avis ?
Plus on lit la Bible, enfin je parle pour moi, plus on lit la Bible, ce qui nous arrive, c'est que cette parole de Dieu, qui est parole vivante, elle s'imprime en nous. Et ce qui nous fait que quand elle s'imprime en nous, beaucoup de moments dans notre vie, le Saint-Esprit qui est remonté, qui nous est bonne pour nous aider, pour nous sortir d'une situation, ou qui peut nous permettre justement, vis-à-vis d'un collègue, d'un ami, d'un voisin, d'apporter justement une parole, un mot de Dieu, une
Tout
parole de consolation qui permet à un. Donc, effectivement, sans la Bible et la vie de prière, on n'est rien.
Et puis, je suis sûr que plusieurs ont fait cette expérience-là aussi. Certains ont vécu l'exaucement de leur prière ou la réponse à leur prière
amen.
En lisant la Bible.
Amen.
Oh Seigneur, parle-moi ! Alors on s'attend à ce que le Seigneur dépose quelque chose dans notre cœur, il n'y a rien. Et puis dans la lecture, c'est là ça. Là ça touche notre cœur. La parole et la prière sont indispensables.
Amen.
Comment vivre la vie de prière ? Par les chants. Par les chants. Il y a une expression que j'ai entendue deux fois dans ma vie. Donc je me dis que peut-être que certains d'autres l'ont déjà entendue. Il y a une expression qui dit que chanter, c'est comme prier sept fois. Alors non. Non, il y a chanter. Il y a prier. Il y a des chants qui exprime ce qu'il y a sur notre cœur. Amen.
Oui.
Et c'est pourquoi que c'est très important dans la vie de prière. Certains disent, mais je ne sais pas quoi faire dans la prière, je me sens, j'y arrive pas, j'arrive au bout de 5 minutes, j'y arrive pas. Mais mêlez tout ça. Mêlez la parole de Dieu, mêlez les chants, mêlez cette disposition spirituelle en parlant en langue. Et vous allez vous apercevoir que la demi-heure, elle a vite passé, mes bien-aimés. Chanter, ça fait partie aussi de la vie de prière. Je ne dis pas que chanter, c'est prier, on est d'accord, hein?
Oui.
Mais ça alimente la vie de prière. Ça dispose nos cœurs de temps en temps. On est là, on a fait tellement de choses. Et... allez, on fredonne un petit chant et ouh, ça apaise. On vient là-dedans. Une sérénité, une quiétude spirituelle. De temps en temps, même, on est en train de prier. Et il y a un chant qui nous vient à l'esprit. Alléluia. Et là, c'est bon de le chanter. Si vous êtes comme moi, vous avez même inventé les paroles. C'est pas grave. Il y a des fois, le Seigneur vous interpellera, vous ramènera à la prière au travers d'un chant que vous entendrez. Ou... mais Paul nous dit bien qu'il faut s'entretenir par des cantiques, des chants, des hymnes spirituels chantant dans votre cœur. Le fait de chanter dans la journée, ça maintient cette connexion. Amen. Il y a quelques temps, on disait qu'il fallait qu'on soit comme des téléphones portables. Moi, je rappelle l'exemple.
Oui,
le but du téléphone, là, qu'est-ce qu'il fait là, le téléphone, en ce moment? Hein? Eh bien, si, il fait quelque chose. Il est en train de chercher le signal. Toujours là, il envoie des ondes pour savoir s'il est connecté. Non? Je suis seul à avoir un téléphone comme ça,
non?
Tous les autres sont... En fait, là, quand vous regardez, vous avez même des petits trucs qui bougent, là. Parce qu'il est en train de chercher le signal pour être connecté. Et nous, en tant que chrétiens, notre vie de prière, c'est ça aussi. On doit toujours chercher à... est-ce que je suis en connexion avec le Seigneur? Est-ce que je suis toujours là? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que si le Seigneur m'appelle, est-ce que je vais répondre? Ou alors est-ce que je serai hors réseau? Et alors je connecterai rien du Seigneur. Et le téléphone, alors qu'on croit qu'il est en train de dormir, il ne dort pas du tout. Il est toujours en train d'envoyer des petites ondes pour savoir, pour rester sur le réseau. Et le fait de chanter, eh ben c'est comme si t'entends, on se reboostait. Parce qu'on est tellement pris par les activités, par les courses, par le problème de la voiture, par la femme. Ouais, ça c'est juste pour vous réveiller une fois de temps en temps, ça marche à chaque fois. Hein.
Les enfants.
Les enfants, oh là là. Et donc le fait de chanter, ça permet... il y a un petit bouton de temps en temps, ça s'appelle « Rise up » sur les trucs ordinateurs. Et quand on appuie là-dessus, ça fait comme une sorte de nettoyage, ça remet tous les pendules à l'heure. Et de temps en temps, dans la journée, c'est bon de chanter un cantique. C'est comme si on décompressait quelque chose, on vidait une surcharge qu'il y avait dans notre esprit, dans nos pensées. En s'entretenir par des chants. S'entretenir. C'est là que je vous rappelle, il y a aussi une différence entre écouter des chants et chanter. C'est bien d'écouter des CD. Mais si on s'habitue à ça, en fait, on peut écouter des CD chrétiens ou la radio, ça va faire pareil. Hein. Merci, on est très content d'avoir des MP3, des CD, d'avoir tout ça accessible. C'est bien d'entendre. Mais rien ne remplacera le chant. Le fait de proclamer, de dire des paroles portées par la musique. Alléluia. Mais c'est très important de chanter. Pour disposer notre cœur, pour ranimer la foi, ranimer la joie aussi. Ça vous arrive pas ça? Vous êtes fatigué, peiné, et puis vous entendez un petit chant et... ah, mais oui, compte les bienfaits de Dieu. Amen, amen, amen. Et le seul fait de se rappeler les paroles, eh ben, ça nous fait prendre du recul par rapport au temps, aux circonstances. Très important que de chanter. Ça chasse aussi les mauvaises pensées, non? De temps en temps, on emmagasine des choses et puis ça dérape dans notre esprit, non? Le fait de chanter ça, hop, ça éclaircit. Donc dans la vie de prière, mes bien-aimés, n'oublions pas le chant. Dans la vie de prière, on a abordé un petit peu, il y a la notion du silence. Vous allez vous apercevoir qu'une demi-heure de prière, ça va vite faire. Hein, parce que c'est vrai que peut-être qu'il y a des fois, on n'a plus rien à dire au Seigneur. Ça arrive, non? Et là, on prie, oh Seigneur, tu bénis mon poisson rouge, ma femme, mes enfants, pose ta main sur le travail, et puis on est là, on est un peu à sec. Oui, bien sûr, on pourrait encore dire des sujets, mais c'est plus vraiment comme si c'était sur le cœur, quoi. Mais il est bon aussi de se tenir solitaire et silencieux. De se tenir dans le silence. On avait vu ça la semaine dernière avec l'exemple d'Élie. Ah oui, il avait vu un prodige extraordinaire, le feu de Dieu qui était descendu, il avait tout consumé. Il était complètement découragé après. Alors Dieu l'a emmené là, dans la grotte. Il dit, je vais passer. Et c'est dans ce murmure doux et léger qu'il a discerné la présence de Dieu.
Amen.
Et qu'il a retrouvé les forces pour continuer son chemin. Le silence fait partie de la vie de prière. Et dans une société qui est toujours en train de nous abreuver, pour ne pas dire nous étouffer de bruit, c'est pour nous quelque chose qui est difficile, avouons-le. Parce qu'on vit dans cette société et cette société nous influence. Et il faut que nous réapprenions le silence dans la prière. Cette écoute sensible. Est-ce que vous avez des expériences à partager, des anecdotes?
Souvent, j'ai remarqué que Dieu nous parle beaucoup dans le silence aussi.
Bien sûr. Dieu parle beaucoup dans le silence, Didier.
Oui.
Des fois, on a l'impression même qu'il nous impose le silence. On est un peu tenu comme ça.
Et ceux qui ont vu cette vie de prière vont exprimer ce genre de choses. Le Seigneur nous impose, on entend le silence. C'est dans Osée qu'il est dit « Je vais t'emmener au désert parce que je veux parler à ton cœur, mes bien-aimés. » C'est Dieu qui va dire, qui impose à son peuple « Je vais t'emmener au désert parce que je veux parler à ton cœur. » Et dans le silence, Dieu dépose des choses. Je vais même vous dire que c'est dans le silence qu'il se développe une sensibilité à la vie de l'esprit, mes bien-aimés. Ce n'est pas dans les longues prières, ce n'est pas dans les bruits, mais le fait d'être dans le silence de Dieu, de sentir que c'est comme lui qui nous attendait là. Alors nous, on a l'impression qu'il nous met dans le silence et qu'il va nous parler, et puis il ne nous parle pas même. Hein, ça arrive ça. On est là, mais Dieu veut développer notre sensibilité.
Amen.
Il veut nous amener à être capable d'être là, juste pour être là. Juste pour sentir ce murmure doux et léger. Et qu'il ne nous parle pas ou qu'il nous parle. En fait, c'est plus ça la vraie raison de ce moment de silence. Mais c'est le seul fait de développer cette sensibilité spirituelle. Apprendre à faire silence. Apprendre à ne plus se projeter. Apprendre à ne plus attendre quelque chose comme si on était toujours là comme des sangsues. Être dans le silence. C'est ça qui développe la vie spirituelle.
Amen.
Et je crois, mes bien-aimés,
qu'une
des raisons pour lesquelles dans l'Église de Jésus-Christ, il y a moins d'inspiration pour les dons spirituels. C'est parce qu'on a perdu cette sensibilité d'être dans le silence.
C'est vrai.
Et à recevoir des choses. On ne sait plus. On s'habitue à ce que telle personne prie, à ce qu'il y a la musique, à ce qu'il y ait quelque chose. Alors, on exerce notre oreille à entendre du bruit. Et s'il n'y en a pas de bruit, on est comme perdu. On est comme un peu perturbé. Et là, ce n'est plus un silence spirituel, c'est un silence glacial. Un silence vide. Oui, Félicia ?
On veut dire aussi que dans le silence, pour attendre la voix de Dieu, il faudrait avoir l'esprit bien disposé. Parce que si tu as ton esprit qui est en train de au nord, au sud, tout, tu ne vas jamais discerner la voix de Dieu. Donc dans le silence, tu apprends à canaliser ton esprit sur la parole, sur le Seigneur même. Tout sauf penser à tout ce qui ne va pas Dieu. Pour canaliser son esprit pour recevoir.
Très bien. Elle anticipe une autre section. Prier à haute voix. Et pas seulement à l'église. Hein. Chez soi. Est-ce qu'il y a des exemples? Des témoignages?
Nous savons qu'en priant à haute voix, non seulement on se fait du bien, bien ce qu'ils entendent, mais les dominations dans les lieux célestes, ils n'aiment pas la prière à haute voix. Et quand ils entendent le chrétien fervent qui prie, ils s'éloignent.
Alors, une des choses qui est caractéristique dans la prière à haute voix, c'est qu'on prend une position spirituelle.
Amen.
On prend une position spirituelle. On peut être là comme chargé, on cherche la face de Dieu, on pense à ces choses, on murmure et tout, Et puis si vous prenez cette occasion d'élever votre voix, de dire les choses, de les proclamer, de mettre des mots sur les promesses de Dieu, alors là vous sentez comme si le ciel se changeait de couleur, quoi.
Amen.
C'est comme si ces nuages qui étaient gris foncé là, c'est comme s'ils partaient, alors que ça faisait peut-être 2-3 jours que c'était oppressant. Mais le fait de proclamer, de dire au nom de Jésus, je veux vivre ta vie Seigneur, je veux vivre, et le dire avec notre cœur. On est tellement capable devant un match de foot de crier, n'est-ce pas? Devant une telle situation, plein de situations où on est poussé à parler fort. Mais dans la prière, ça a la même puissance.
Amen.
Si ce n'est même
Amen.
Plus, parce que là, c'est une puissance spirituelle. Mais c'est une énergie que l'on met dans les mots que l'on dit.
Bon,
on n'est pas obligé de parler à haute voix seulement dans l'église. Dans votre vie spirituelle, dans votre vie de prière. Que vous soyez tout seul, là, ça fera plaisir à personne. Personne ne sera au bénéfice. Mais spirituellement, le fait de proclamer, le fait de dire les choses, ça fera des déblocages. Et même dans votre vie personnelle, on peut prier dans le silence, on peut prier à haute voix. Et c'est deux aspects différents. Dans le silence, on cherche cette sensibilité à l'esprit. Dans la prière à haute voix, on prend une position. Je ne vais pas dire une attaque spirituelle, parce que je n'aime pas du tout ce genre de position où, comme s'il fallait qu'on harcèle le trône de Dieu. Il n'y a rien à harceler. Le ciel nous a été ouvert.
Amen.
Donc on n'a pas à lutter avec Dieu. Il n'y a pas de chantage à faire. Par contre, il y a l'ennemi de notre âme qui lui va chercher à étouffer. Et quelque part, permettez l'image, quand on prie à haute voix, c'est comme si on retirait tout ça, quoi. C'est comme si on voit de temps en temps dans c'est pas la même signification, mais on voit dans l'Ancien Testament les rois qui déchiraient leurs vêtements. C'est un signe d'humiliation. Et bien, quelque part, le fait de prier à haute voix, c'est comme si on dit « J'en ai marre, je ne veux pas rester comme ça !» Et là, on prend une position spirituelle. Et là, mes bien-aimés, ça fait partie des armes, des énergies, des techniques, des pratiques qui sont très utiles, la prière à haute voix.
Ce qui concerne aussi la prière à haute voix, je peux dire aussi que le fait de prier à haute voix, nos oreilles entendent ce que notre bouche dit.
Mmh.
Et le fait que nos oreilles entendent ce que notre bouche dit, ça fait du bien à notre cœur, ça fait du bien à notre foi. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend.
Ça permet d'exprimer nos émotions, nos ressentis. Et c'est tellement important. Alors ça, c'est même les psychologues qui le disent, hein, d'être capable de mettre des mots sur nos ressentis. Mais les psychologues, ils ont raison, ils parlent de l'âme aussi, hein. Ils ne parlent pas de l'esprit, ils parlent de l'âme. Et quand on prie, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui est en prière. Donc effectivement, ça permet de mettre des mots et d'aller plus loin. On a vu la notion de la vie de l'esprit, cette connexion continuelle. Il y a même un très beau, on peut même le mettre en parallèle avec la notion de silence. En Romains 8, il nous a même dit que l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Hein? Et ça, cette notion de la vie de l'esprit. Alors, c'est pas à cloisonner, hein? Tout ça, c'est à vivre. Hein? C'est à vivre ensemble, en fait. Hein? Le zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Bien aimé, dans la prière, il faut que nous ayons du zèle, de la détermination. On n'a pas le temps, je vous laisse lire à la maison 2 Rois, pour ceux qui prennent des notes, 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 19, je vous raconte juste l'histoire. C'est le roi Joas, il va voir Élisée. Élisée, il est au lit, ça commence par ça, et Élie atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas va le voir, et Élisée lui dit, bon, prends une arc, prends un arc et prends une flèche. Il dit, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Il dit, tire la flèche. Il tire la flèche. Il dit, tu vois cette flèche-là? C'est une flèche de délivrance. Tu battras les Syriens. Quelle parole prophétique. C'est beau, quoi. Alors, il dit à Joas, maintenant, prends des flèches et tire à terre. Alors, mec, il prend une flèche. Toc. Il prend 2 flèches. Tac. Il prend 3 flèches. Tac. Puis, il s'arrête. Et là, il nous a dit qu'Élisée fut irrité. Il dit, mais pourquoi tu t'es arrêté là? Il fallait au moins tirer 4 flèches, 5 flèches, 6 flèches. Et là, tu aurais vaincu. Là, tu vas juste remporter 3 victoires. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'Élisée est irrité? Et pourquoi Joas n'a pas tiré plus de flèches? Là, mes bien-aimés, on peut se poser plein de questions. On peut se dire, mais est-ce qu'il n'a pas cru dans les paroles d'Élisée? Il lui explique bien, tirer une flèche, jette-la. Et là, il lui explique le sens de son geste. Tu vas vaincre. Et quand il lui dit tire, c'est comme si... C'est comme s'il était pâteau, comme s'il tirait parce qu'on lui demandait de tirer, mais on sent qu'il n'y a pas son cœur, il n'y a pas son énergie, il n'y a pas son zèle, il n'y a pas de détermination. Il ne comprend pas la vision que Élisée lui a transmise pourtant. Il est important de réaliser que lorsque Dieu nous invite à prier, il faut qu'on se place un peu comme ces gens qui envoient des flèches. Quoi.
Oui. Oui.
On ne prie pas dans l'air. C'est spirituel qu'on engage notre vie. Non pas parce que c'est le pasteur qui... Mais la parole de Dieu nous invite à réaliser que si nous prions en son nom, il nous exaucera.
Amen.
Qui le dit? Alors on le prend sérieux, oui ou non? Si on ne le prend pas vraiment au sérieux, on dit, ouais, je te prie, puis on verra. Mais si on croit vraiment ce qu'il dit, alors on va mettre du zèle, on va mettre de la détermination. C'est pour ça que dans la prière, il faut du zèle. Il faut qu'il y ait une implication de notre personne, une implication de notre vision spirituelle dans la prière. Des exemples dans ce domaine-là?
Plus on a une vie de prière, plus on est poussé en fait. Même quand on est timide, des fois il y a des choses qu'on fait et on se dit... Bon, on sait que c'est pas de nous.
Alors, tu as raison de dire ça aussi. C'est vrai que la prière nous donne aussi du zèle.
C'est ça.
Ça c'est vrai, ça nous stimule aussi. Mais à nous de sonder notre cœur, à savoir si notre manque de zèle n'est pas un manque de motivation, un manque de foi, un manque d'enthousiasme. Et c'est à nous de nous interroger, qu'est-ce qui fait que j'ai pas ce zèle? Alors c'est vrai que le manque de prière fait qu'on aura un manque de zèle. Mais le Seigneur nous invite aussi. Si Élisée était irrité contre Joas, c'est qu'il s'apercevait que Joas, il rentrait pas dedans, quoi. Il se laissait aller. Prier avec les autres. J'entends t'entends des gens qui disent « Ah, je viens pas à la réunion de prière parce que je sais pas prier. » Mais le fait de prier ensemble, ça nous stimule. On apprend au travers de la prière des autres. Alors il y a des fois le fait de prier avec les autres, de temps en temps c'est les autres qui nous portent dans la prière, parce qu'on est sec, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est peut-être découragé, parce qu'on est là. Et puis d'autres fois c'est nous qui allons apporter quelque chose dans la prière. Et le fait de prier ensemble, c'est une force.
Amen.
Et des fois on retrouve de la chaleur, parce qu'on s'est retrouvé avec les frères, avec les sœurs. J'aime nous comparer à des tisons. Tu sais, les chardons qui ont été un peu chauffés. Quand on est tout seul, on se refroidit, pas obligatoirement. Mais dès qu'on se retrouve avec les autres, et le fait de rapprocher les tissons les uns les autres, ils retrouvent la chaleur, ils se réchauffent les uns les autres. Et le fait de prier avec les autres, c'est très important. Si vous avez de la difficulté dans la prière, c'est pas grave, ça ne va pas vous empêcher de le développer à la maison. Mais le fait de vous retrouver avec des frères, avec des sœurs, ça va stimuler aussi ça. On a oublié de dire qu'avec les autres et à haute voix, la prière, c'est pas forcément attendre que Pierre, Paul, Jacques, il ait fini de prier pour prier aussi. On l'avait lu ensemble, ça, en acte 2 ou acte 4, quand ils se sont mis à tous prier ensemble et ils dirent ensemble. Le fait de prier ensemble, dans une même voix, un même cœur, ce sont vraiment des moments privilégiés.
Amen.
Alors en France, on n'est pas très habitué à ça. En Afrique, on le fait beaucoup plus souvent. Et je peux vous dire que c'est bien plus stimulant.
On sent que quand on prie pour nous, quand on prie pour quelqu'un, on sent comme une manifestation. Quand je sens quand il y a quelqu'un qui prie pour moi, je le sens.
Hmm?
Parce que je sens que je suis renouvelée.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Et des fois, c'est pour ça que Dieu veut aussi qu'on prie pour les autres, justement.
Tout
pour
à fait.
Renouveler, pour qu'ils puissent intercéder.
Des fois, nous sommes bénéficiaires et des fois, nous faisons bénéficier. Mais c'est ça, je prie pour toi, tu pries pour moi. Et on a besoin de cette vie de relation. On a besoin de cette vie de relation. Prier, la vie de prière, c'est aussi une notion de recherche. C'est une recherche. Seigneur, je prie. Mais parce que je recherche, je recherche ta présence. Seigneur, j'aspire aux dons spirituels. Seigneur, je veux vivre tes promesses. Il y a dans la vie de prière une nécessité qui doit être dans le cœur, qui est une notion de recherche. Seigneur, je veux vivre quelque chose avec toi. C'est pour ça qu'on avait fait ce temps de méditation sur les mauvaises attentes et les bonnes attentes. Et on doit fixer notre attention sur les bonnes attentes. Seigneur, tu as promis ta paix. Seigneur, tu as promis ta visitation. Seigneur, tu as promis ta joie. Seigneur, tu as promis un renouvellement. Seigneur, tu as promis. Et c'est bon d'avoir ces attentes. Si on n'a pas d'attente, ça va être sec le temps de prière. Ça va être sec. Et c'est là qu'on peut se dire, moi, j'ai rien à dire à Dieu. Ben oui, parce que s'il n'y a pas d'attente. On dit qu'on ne peut pas donner de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Alors l'âne, en l'occurrence, c'est nous. Si on n'a pas d'attente, si on n'a pas de soif, il va nous donner quoi le Seigneur? Une fois, je me souviens, il y avait c'est un rassemblement de jeunesse, et on avait proposé aux jeunes qui voulaient qu'on prie avec eux de s'approcher sur le devant. Parce que la Bible nous dit que si deux sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Donc je pars du principe que si la personne vient vers moi, si je n'ai pas un discernement particulier, je demande à la personne, tu veux qu'on prie pourquoi? Et là je me dis, je sais pas. Si tu sais pas pourquoi tu veux que je prie, moi je vais prier pour toi, et puis après tu vas dire qu'il t'a pas exaucé, parce que de toute façon tu sais même pas pourquoi tu... Et de temps en temps, spirituellement, on est la même. On prie, Seigneur. Mais en fait, on n'attend rien vraiment, quoi. Il n'y a pas une recherche, il n'y a pas une aspiration, il n'y a pas... Le Seigneur nous apprenne à avoir ce cœur qui recherche. Comment vivre la vie de prière? En œuvrant. Quand on est impliqué dans l'œuvre de Dieu, ça stimule aussi à la prière. Quand on a des responsabilités, et quand je dis responsabilité, c'est pas un titre, hein. C'est s'engager à être responsable dans l'œuvre de Dieu. Ça pousse à la prière. Quand on s'investit, alors on va aussi prier. Quand on va apprendre des nouvelles, ça va nous stimuler à la prière. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des carnets sur lesquels ils marquent des choses. Ils marquent les âmes qui sont venues. Ils marquent le nom des frères, des sœurs. Et régulièrement, ils réouvrent ce carnet et ils prennent le temps de prier, parce que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Et ils s'impliquent dans cette œuvre. C'est pas seulement je vais le dimanche à l'église, si la prédication est bien, si l'archange a bien chanté, bah tant mieux. J'ai vécu un petit frisson dans le dos, c'est super. Mais c'est pas ça la vie de prière. La vie de prière, c'est une implication dans l'œuvre. Seigneur, je prie parce que je veux voir ton œuvre avancer. Seigneur, je prie parce que avec le groupe de chorale, on va chanter. Seigneur, je prie parce que voilà, parce que le frère m'a demandé de prêcher aujourd'hui. Seigneur, je prie parce que je vais aller faire de l'évangélisation et je vais distribuer des prospectus. Je prie, Seigneur, parce que il y a tel projet à l'église. Et alors je veux qu'il y ait ta grâce. C'est s'impliquer, c'est se responsabiliser. L'œuvre de Dieu, nous sommes ses ouvriers.
Amen.
Et si quelque part dans notre cœur, il y a l'œuvre de Dieu et puis moi je viens juste pour consommer, alors ça n'alimente pas la vie de prière. On doit se sentir impliqué, responsable dans la vie de prière. Je voudrais juste survoler le dernier point sur les obstacles. Ce qui empêche, ce qui coince la vie de prière, ils nous sont définis simplement dans la parole de Dieu. Il nous est parlé des excès de table qui appesantissent l'esprit. Alors on n'est pas obligé de vivre tous les jours dans le jeûne et la prière. Ça aussi, ça fatigue le corps, les jeûnes. Mais Dieu nous rappelle aussi que les excès de table appesantissent l'esprit. Et on doit veiller aussi dans notre hygiène au quotidien à ne pas s'appesantir l'esprit par les excès de table. Il nous apprend aussi que ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. J'ai mis péché et désobéissance. Dans quel sens j'ai mis désobéissance? C'est quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose et on ne fait pas. Alors après on dit, oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Mais la dernière fois qu'il t'a parlé, tu n'as pas fait. La dernière fois qu'il t'a demandé d'ouvrir ta bouche, t'es resté muet. Tu me demandes une direction, mais toi tu dis, oh non, 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 je veux faire autre chose. Et on verra, les semaines qui vont venir, des exemples comme ça dans le peuple de Dieu. Ils ont demandé, oh Seigneur, exauce-nous, dirige-nous. Le prophète y parle, il dit, oh non, non, on va faire autre chose. Mais c'est quoi cette incohérence? Et si c'était vrai hier, ça vous est peut-être aussi arrivé de vivre ça aussi. Et peut-être est-ce que vous êtes dans une situation où actuellement vous êtes en train de résister, vous savez ce qu'il y a à faire, mais
non.
Le troisième obstacle à la vie de prière, en Luc 8, verset 14, il nous parle des soucis, des richesses et des plaisirs. Et là, j'ai voulu détailler quelques soucis, richesses et plaisirs. Les conflits sont des obstacles à la vie de prière. C'est même Jean-Jacques qui nous a dit que s'il y a des conflits conjugaux entre le mari et la femme, ça fait obstacle à la prière. Mais on arrive aussi dans une société. Alors j'ai mis deux mots. Sollicitation et chronophage. Oh, qu'est-ce que c'est ? On est dans une société où on est de plus en plus sollicité. On est en train de regarder, est-ce que j'ai un message ? Mais il faut savoir couper, hein ? Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on apprenne à prendre du recul. Parce que comme le disait Félicia tout à l'heure, c'est pour ça que je n'ai pas relancé, parce que je savais qu'on allait venir après. Quand notre esprit est toujours là, en ébullition, en sollicitation, toujours en train d'être excité, papillonné, éclairé par tout le système dans lequel on vit, alors on n'est pas disposé à la prière. Et c'est normal, hein. C'est pas qu'on est faible. C'est que plus on est sollicité, et moins on est disposé. Et qu'est-ce que j'appelle chronophage ? Il y a des gens qui connaissent le mot là ? Bon, c'est pas si compliqué. Hein ? Chrono, le temps. Et phage, c'est manger le temps. Et en fait, on appelle chronophage tout ce qui prend du temps dans la vie. Vous avez des exemples de choses chronophages ? Hein ?
La télé.
Ah, la télé.
Internet.
Le travail dans certaines occasions. Le texto. Et il y a une multitude. Nos passions. Il y a des passions. Mais c'est sur mon papier. J'ai beaucoup incité, effectivement, parce qu'on a tous vécu. Les jeux ordinateurs. Mamie, je peux dire témoignage ? C'est-à-dire, mais mince, lequel ? On dit, oh, les jeunes, ils sont toujours devant les ordinateurs. Mais les vieux aussi. Et on subit la même chose. Et c'est mamie qui me racontait que c'était sur son téléphone. Elle avait trouvé qu'il y avait un petit jeu. Mais oui, on n'a pas joué sur nos téléphones, nous. Mais si. Mais n'empêche que on a vite fait aussi de passer du temps vite fait comme ça, tatatac. Alors on fait au début pour découvrir. Après la découverte, oh, c'est super, je vais essayer d'améliorer mon score. Et après on se retrouve à 40 ans, 50 ans, genre... Et on se dit, mais attends, je fais quoi là? Et alors? On a beau avoir plus de 60 ans, un peu plus, hein. Et on s'aperçoit, mais comment ça se fait que ce genre de choses me gaspille, me bouffe mon temps? Et c'est jamais sur le temps du manger, hein. C'est jamais sur le temps du sommeil, enfin si t'entends. C'est jamais sur le temps du travail, donc ça va être sur le temps de qui?
Le temps de Dieu.
Le temps de Dieu. Mmh. Surtout qu'après avoir fait Facebook, gna, vous avez l'esprit comment?
Fatigué.
Fatigué? Disposé à prier? Rien du tout de tout ça, vous êtes encore en train de dire « Ah ouais, au fait, il m'avait dit ça, le gars. » Et nous sommes dans une société où nous devons apprendre. Je suis en train de rencontrer des gens qui sont dans la prévention. Et ils disent qu'aujourd'hui, là, on a parlé longtemps de la drogue, de l'alcool, du tabac, mais on est en train de parler de Facebook et de tous les autres réseaux sociaux comme des addictions. Des addictions. Et ils nous disent « Mais les premiers touchés, c'est pas les jeunes, c'est les plus grands. » C'est les plus grands. Et ça sollicite, on est comme oppressé. On vit en fonction de ça. Mais bien aimé, on n'est pas en train de parler de choses mystiques, de choses terre à terre. Toutes ces choses-là sont des obstacles à la vie de prière. On n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. On est en train de réaliser, et on doit réaliser, que toutes ces choses-là sont des obstacles à la vie de prière. Combien de temps? Et tout le temps on dit, oh, mais j'ai pas le temps. Ah oui? Ben regardez le temps que vous avez mis dans ces deux domaines-là. Comptez le nombre d'heures que vous avez passées dans la journée. On ne peut pas passer 10 minutes à prier dans la journée, mais par contre, on est capable de passer 2 heures devant un film. On n'est pas capable de prendre 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais on va être capable, là, de passer du temps sur le Facebook, etc. Oh, j'ai pas le temps de prier 5 minutes, de me recueillir, de chercher le silence de Dieu, de chercher la volonté de Dieu, mais je vais avoir le temps de... Alors nous, on peut se donner toutes les raisons du monde. Nous, on peut. Mais ça s'appelle du mensonge. Ça s'appelle se mentir à soi-même.
Tout à fait.
Et on a toujours des raisons de rester connecté, de regarder les infos, de répondre à Pierre, Paul, Jacques. Mais n'oublions pas que le monde est dirigé par l'ennemi de notre âme. Et notre solution, notre issue, notre renouvellement, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu nous connaît. Ça a toujours été les mêmes pièges sous des formes différentes, mais c'est toujours les mêmes principes. Alors, je l'exaucerai des cieux. Là sera mon cœur, là sera mes yeux. Bien-aimés, on n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on pense à Dieu. On n'est pas chrétien parce qu'on sait des choses sur la Bible. On est chrétien parce qu'on a une relation entretenue avec Dieu. Et on a lu déjà des exemples d'hommes qui avaient servi le Seigneur avec Paul. Un homme de réveil comme ça. Mais par amour pour le siècle présent, il a abandonné. Le vrai réveil spirituel, le vrai renouvellement spirituel, c'est garder cette relation vive, c'est d'avoir cette vie de prière.
Amen. Amen.
Amen.